Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Regard aujourd'hui sur la place des océans et de la mer dans la géostratégie des puissances, dans la mondialisation qui est la nôtre. L'espace maritime joue un rôle essentiel, la mer comme chemin de transport et gisement de ressources, la mer comme espace de la compétition politique et économique internationale. De fait, les stratégies maritimes des États ne visent plus seulement à contrôler la mer à des fins militaires, mais également à y maintenir quotidiennement l'ordre international. Une sorte de continuum a donc pris place entre les aspects militaires et les aspects sécuritaires de la protection des intérêts stratégiques. Certaines analyses suggèrent que la mondialisation aplatit un monde supposé uniformisé, homogénéisé, voire pacifié. On peut en douter à voir les tensions en mer de Chine et ailleurs sur fond de batailles d'îlots et de contestations de souveraineté sur ces espaces nouvellement ouverts par la Convention sur le droit de la mer, instaurant les fameuses zones économiques exclusives, sans parler de la course au drapeau en Arctique. Regard sur la dimension maritime de la puissance. La mer au cœur des stratégies, avec nos invités Frédéric Cuvillier, député du Pas-de-Calais, maire de Boulogne-sur-Mer, ancien ministre des Transports, de la mer et de la pêche. Bonjour.
Bonjour.
Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et co-directeur avec Bastien Alex du numéro 95 de la revue internationale et stratégique intitulée Mer et Océan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On ne le sait pas beaucoup. La France compte 18 000 km de côte, surtout avec 11 millions de kilomètres carrés. Nous disposons du deuxième territoire maritime du monde, juste derrière les États-Unis. Ce territoire représente plus de 16 fois notre territoire terrestre. Lequel territoire terrestre nous place, lui, à la 41e place, puissance moyenne donc. Mais si on additionne les territoires terrestres et maritimes, voilà la France propulsée à la 6e place à l'échelle mondiale, juste derrière le Brésil, mais devant la Chine ou l'Inde. Ça mérite qu'on prenne le temps d'assimiler ces données, tellement ce peut paraître incroyable. D'ailleurs, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Comment la France se situe-t-elle face à la mer? Que fait-elle de sa position de deuxième territoire maritime du monde? Frédéric Cuvillier, ça fait beaucoup de questions.
Oui, mais ce sont des questions à la fois stratégiques et peut-être qui amènent à un constat. Vous disiez dans vos propos qu'il y avait une méconnaissance. Cette méconnaissance, elle est réelle et il nous faut être d'inlassables ambassadeurs de cette réalité, de cette potentialité, de ce que représente la mer pour la France. La France est maritime, mais elle ne le sait pas. La France a un potentiel énorme, pas seulement en termes de souveraineté. C'est vrai que vous évoquez un certain nombre de questions, souveraineté régalienne, bien sûr. Mais pour l'avenir des 7 milliards d'individus de cette planète, l'enjeu sera un enjeu maritime. L'avenir de la planète est un avenir bleu. Or, nous avons cette chance inespérée, mais dont nous ne prenons pas pleine mesure, qui est celle de la réalité maritime de la France. Vous l'indiquiez, grâce à ses outre-mer, car la France et ses outre-mer nous permettent d'avoir ces 11 millions de kilomètres carrés, cette deuxième surface. Certains disent, même certains ministres, ou anciens, deuxième puissance mondiale. Non, deuxième surface mondiale. Malheureusement, pas deuxième puissance maritime mondiale. Mais à nous de le faire devenir et de prendre pleine conscience de ce que cela représente en potentialité et en croissance durable.
Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, Frédéric Cuvillier, cette méconnaissance, j'aimerais bien qu'on se pose quelques instants dessus. Comment expliquer que la France méconnaisse cet aspect maritime de son existence même?
C'est une constante de l'histoire française, au travers des siècles. Peut-être faut-il remonter à Colbert pour avoir une véritable impulsion maritime, à l'époque qui était militaire. Mais la France s'est tournée vers la terre avec des enjeux qui étaient des enjeux de conquête et a été peu portée sur ce que représente ce potentiel maritime. Or, si la France réfléchissait à cette réalité, premier littoral européen, peut-être considérait-elle que son rôle est un rôle tout à fait différent. C'est un rôle qui lui donne une puissance, non pas de façon belligérante, mais un poids politique et une responsabilité majeure.
Didier Billon, Bastien Alex, vous partagez bien évidemment, mais voilà, peut-être des choses à rajouter sur ce constat, Didier Billon.
Oui, il y a un paradoxe et une contradiction absolue, mais je crois que c'est effectivement le produit de l'histoire. La France a la chance, outre son domaine maritime sur lequel je reviens, d'avoir un climat très tempéré, d'avoir donc une variété agricole possible, et une partie de notre puissance au cours des siècles passés s'est articulée sur cette puissance agricole grâce à un climat tempéré. Premier élément. Donc cela nous a fait négliger l'aspect maritime côtier.
On était presque trop gâtés, c'est cela
presque, que j'entends. Presque, oui. Deuxième élément, c'est le prix de l'histoire politique, militaire. Parce que, évidemment, nous avons été, Français, nous, obligés de nous défendre devant un certain nombre de tentatives d'invasion qui venaient de l'Est, du continent. Et donc, il y a toujours eu, d'un point de vue politique et donc militaire, le regard plutôt tourné vers l'Est plutôt que vers cet espace fluide qui nous ouvrait sur le monde. Donc ça, ce sont deux contraintes historiques fortes, mais qu'il nous convient de dépasser désormais. Et par rapport aux chiffres que vous indiquiez tout à l'heure, qu'il est toujours très bon de rappeler parce qu'ils sont méconnus, je me permettrai d'ajouter un élément, c'est que nous sommes deuxième domaine maritime mondial, pas puissance comme M. Cuvillier le précise, c'est très important, mais il faut comprendre que ce domaine maritime, c'est à 97% dans nos outre-mer. Parce que non seulement nous avons un grand domaine maritime, mais en plus nous sommes présents, notre territoire national est présent dans tous les grands océans, Atlantique bien évidemment, Pacifique, Indien. Donc d'un point de vue d'influence, d'un point de vue de rapport de puissance, nous avons un atout formidable. Nous évoquerons probablement les enjeux environnementaux, les enjeux d'exploitation, bon sens du terme, des ressources halieutiques, etc. Mais en termes d'influence, et nous savons que c'est un maître mot dans le dispositif français au niveau international, il y a là une sous-estimation qu'il est nécessaire de dépasser et il faudra donc opérer là un certain nombre de ruptures. Quelques responsables politiques ont parfaitement conscience de ces enjeux, mais ce n'est pas suffisamment collectif à ce stade. Mais la bataille mérite d'être menée.
Bastien Alex.
Oui, juste pour ajouter quelque chose, effectivement, c'est le produit de l'histoire, c'est évident. Et on voit que ça tarde à se concrétiser. Et prenons juste un exemple. Le ministère de la mer ou secrétariat d'État de la mer a été supprimé à plusieurs reprises ou suspendu ces dernières années, ce qui quand même pose question. On évoquait aussi le fait que la pêche ait été rattachée au ministère de la mer tout récemment, ce qui là aussi peut paraître étrange. Et juste pour donner un exemple encore plus récent, le rapport produit par France Stratégie, donc l'organisme dirigé par Jean Pisani-Ferry, ce rapport donc intitulé « Quelle France dans 10 ans ?», nous l'évoquions, ne contient quasiment aucun élément sur les questions maritimes. Donc évidemment, on peut se poser la question de la volonté française d'affronter un petit peu son destin maritime et de prendre en main ce problème à bras le corps pour un petit peu se penser en fonction aussi de cet avantage. Donc pour l'instant, elle ne fait rien. On dit souvent que, certes, je vais encore répéter ce chiffre, 11 millions de kilomètres carrés, la France continue un petit peu de se cacher derrière ce chiffre qui n'en fait pas la deuxième puissance maritime. Elle en fait simplement le deuxième domaine maritime.
Alors, on a l'impression, Frédéric Cuvillier, finalement, d'un nouvel univers, en tout cas une sorte d'Eldorado, mais dont on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui des enjeux maritimes pour la France ?
Je pense qu'on sait très bien quoi en faire.
On sait très bien.
Et que l'on ne se dote pas des moyens stratégiques. Vous parliez à l'instant du rapport Pisani-Ferry qui m'a fait bondir. J'étais ministre à l'époque. Ça a été d'ailleurs un des moteurs m'amenant à interpeller plus vivement encore nos autorités pour dire que la mer était oubliée. Comment peut-on penser et projeter la France dans 10 ans? Avec des enjeux stratégiques, économiques, nous sommes en quête d'une croissance. Et avec un combat qui est celui une discussion vive de savoir si la croissance doit assurer un avenir à nos populations. Il y a même des thèses de la non-croissance. Or, nous savons très bien que nous pouvons, notamment par la mer, faire se conjuguer des enjeux de croissance et de durabilité et de préservation.
J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir, la mer, Frédéric Cuvillier ?
La mer a tout à nous offrir. Et elle a tout à nous permettre de découvrir. Vous savez que la mer, et c'est une image, mais là aussi, il est important que nous les utilisions, ces images. Nous sommes sur cette planète bleue, sans même la connaître. Nous en connaissons la Terre, mais nous n'en connaissons pas les abysses, nous n'en connaissons qu'une infime partie de ce que recèle la mer.
Juste pour préciser, 70% de l'espace
de la
sur
planète.
Terre.
Nous connaissons mieux la Lune que la mer. C'est un paradoxe incroyable. Et pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure de cette réalité historique qui fait que la France ne prend pas pleine mesure de cela, c'est que l'expression la plus terrible, c'est de dire que nous sommes acculés à la mer. C'est le contraire. Nous devons voir la mer comme l'ouverture d'horizons nouveaux, avec ce qu'elle peut receler. Alors c'est vrai que c'est de la ressource halieutique, c'est de la ressource en termes d'hydrocarbures, de minerais, mais pas seulement. Et vous savez que grâce au plancton, nous arrivons à un équilibre climatique. À nous de pouvoir l'utiliser mieux, le développer. L'enjeu nutritionnel est évident, le dessalement de l'eau est un enjeu majeur quand on sait que l'eau et l'approvisionnement en eau est ce qui amènera un problème sur l'ensemble des continents.
Didier Billon.
Quand on évoque la mondialisation, c'est souvent un terme un peu désincarné. Pourtant, il est nécessaire de repenser constamment les enjeux, les défis de la mondialisation. Deux ou trois chiffres très rapidement. 90% des transports sont maritimes pour ce qui concerne les marchandises. 90%. Nous savons qu'au 19e siècle, début du 20e siècle, au moment où il y a eu la révolution industrielle, ces industries s'installaient à côté des bassins sidérurgiques, à côté des chemins de fer. Mais aujourd'hui, les enjeux, c'est de s'installer pour les grandes entreprises à côté des ports. Parce que les ports, c'est l'ouverture vers les systèmes, les flux mondialisés de commerce essentiellement maritime. Nous savons aujourd'hui que 65% des habitants de la planète habitent à moins de 80 km des côtes. Donc déjà, ces éléments, d'un strict point de vue économique, on ne peut pas raisonner qu'économique bien évidemment, mais ce sont, comme on le dit, des données lourdes, incontournables. Donc déjà, en prendre conscience et avoir ces 2-3 points de repère en tête doivent nous inciter assez facilement à prendre les décisions qui s'imposent. C'est une question de volonté politique. Il y a bien sûr la question des moyens, personne ne peut le nier. Nous sommes, nous Français et d'autres États à travers le monde, dans des situations contraintes au niveau économique. Il n'empêche, ce sont des choix, des orientations, une hiérarchisation. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'à ce stade, dans la hiérarchisation, les enjeux maritimes arrivent toujours en 2, 3, 4e ou 5e position. C'est un tort. Moi, pour ma part, j'insiste beaucoup sur la diversité dont la France peut bénéficier, parce que la France, c'est pas seulement la métropole, c'est pas seulement l'Hexagone, c'est à travers le monde notre capacité maritime qui est énorme. Et alors, quand on est dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, inutile de vous dire que les ressources halieutiques, que les capacités à développer l'aquaculture, la pisciculture, sont évidemment avec des produits différents que ceux qu'on trouve autour de l'Hexagone. C'est ce qui fait notre force. Nous avons non seulement un énorme domaine maritime, mais en plus une forte diversité. Alors saisissons cette chance et cette opportunité pour nous replacer au centre des enjeux internationaux.
Alors Didier Billon a ouvert la porte sur un sujet que je voulais qu'on aborde, c'est la question des ports, les ports français. Frédéric Cuvillier, je me tourne là aussi vers vous. Ils vont pas bien nos ports, alors on peut en citer Marseille pour la Méditerranée, Le Havre, on est quand même au jour d'aujourd'hui et à l'échelle européenne, les parents pauvres de l'activité portuaire.
Non, je partage pas ce constat, les ports ne vont pas mal, ils connaissent même une petite croissance, mais c'est rien à côté de l'enjeu qu'ils doivent relever et qu'ils auraient dû peut-être relever. Parce que nos façades maritimes sont des portes d'entrée du continent. Or, nous avons laissé filer, depuis maintenant des dizaines d'années, des décennies, laissé filer cette situation géographique extraordinaire permettant d'avoir l'interface entre la mer et la terre. Et donc, de désenclaver ces ensembles portuaires, d'avoir de véritables politiques intégrées de gouvernance, de stratégie de développement portuaire, laissant la place aux grands ports d'Europe du Nord. Or, je prends l'exemple de ma région, je suis maire du premier port de pêche Boulogne-sur-Mer. Sur 70 km de côte, nous avons le grand port maritime de Dunkerque, le deuxième port de voyageurs du monde Calais, le premier port européen de pêche français de transformation européen de produits de la mer. Or, nous avons une gouvernance qui est éclatée, nous n'avons pas de stratégie partagée, ce qui est vrai pour cette façade est vrai pour d'autres. Donc, il faut non pas opposer, là encore, les enjeux portuaires, la mer à la terre et aux infrastructures terrestres, mais bien au contraire donner priorité au désenclavement, à l'intermodalité, à ce que finalement la mondialisation des échanges doit nous permettre d'avoir en croissance, en emploi et en véritable réalité économique de développement portuaire.
Ça fait partie des priorités de ce que nous évoquions
C'est ce que j'avais relancé, en effet. Nous avions lancé, et j'espère qu'elle sera poursuivie, enfin j'y veillerai, la stratégie de développement portuaire, qui est essentielle. En étant nommé ministre, j'ai découvert que dans ce grand ministère des Transports, alors même que cela a été souligné, 90% du transport est maritime, ce qui était en soi intelligent de mettre la mer, la pêche avec les transports, puisque 90% du transport mondial et maritime. J'ai constaté tout simplement que depuis des années, les grands projets d'infrastructure ignoraient les ports et que tous les ports sont enclavés. Ils sont enclavés par le ferroviaire parce qu'il y a des ruptures de charge, du fluvial ou du routier. Mais chaque port, les grands ports, Marseille, Fos-Marseille, est confronté à un problème d'enclavement. Le Havre, évidemment. Et puis, au nord de la France, où il a fallu réorienter le grand projet du canal Seine-Nord en évitant qu'il n'ignore à la fois l'axe Seine avec le Havre, mais également le port de Dunkerque.
Didier Billon.
Oui, je crois que c'est tout à fait essentiel en termes de méthodologie. On nous parle beaucoup actuellement de redécoupage de la carte administrative française avec la question des régions, des départements. Bon, on peut considérer qu'il est nécessaire de refonder la carte administrative française. Sauf qu'il est assez édifiant de constater, à ma connaissance tout du moins, mais je suis quand même un lecteur assidu de la presse, il n'y a pas eu véritablement de réflexion sur la réarticulation de cette richesse maritime potentielle que nous avons en liaison avec la réorganisation administrative. Il n'y a pas eu de réflexion pour désenclaver les ports, comme cela vient d'être évoqué. C'est-à-dire, en fait, se donner les moyens administratifs, mais donc, par des choix politiques, de connecter au mieux et de la façon la plus efficace notre façade maritime, les grands ports, dont je pense qu'ils sont encore très actifs, même si nous pourrions faire beaucoup mieux, bien évidemment, avec l'arrière-pays, si l'on peut dire ainsi. Il y a par exemple le projet du Grand Paris, l'axe de la Seine, formidable projet. Alors, il y a des contraintes budgétaires et économiques, bien évidemment, et personne, encore une fois, ne peut les nier. Mais voilà des axes de réarticulation, de réorganisation administrative bien comprise de l'aménagement du territoire. Et plutôt que de s'amuser à faire des découpages sur le papier, ayons une vision d'ensemble du développement de notre territoire national dans toutes ses composantes. C'est ça qui nous permettra de gagner cette bataille. Difficile et compliquée, mais déjà prise de conscience nécessaire.
Alors, j'aimerais, pour terminer cette première partie d'émission, revenir, mais pour un petit peu mieux comprendre, vous l'avez donné ce chiffre tout à l'heure, 90% du commerce mondial se fait par voie maritime, et on voit la France avoir perdu sa place, en tout cas avoir affaibli l'activité de ses ports. On est dans un paradoxe total, Frédéric Cuvillier, par rapport à cette situation, et est-ce qu'il n'est pas trop tard?
Non, dans le même temps, nous avons des acteurs majeurs du transport maritime, ils sont français. CMA-CGM est un français, il y a d'autres armements. Nous sommes parmi les références mondiales du transport maritime. En compétences, en formation, la qualité de nos marins, nous avons à protéger le pavillon français. Ça, c'est une réalité. Et je mesure combien un certain nombre d'évolutions législatives sont difficiles à faire aboutir. Parce que, oui, il y a une question de priorité, peut-être. Mais nous avons là des acteurs économiques puissants. Partout présents dans tous les ports du monde. Et ils sont français. Donc il n'y a pas à avoir non plus cette espèce de pensée qui serait... ne cédons pas à l'idée que nous aurions définitivement perdu cette chance. Mmh. Non, nous sommes là pour alerter. Nous sommes d'ailleurs devant vous, et merci de nous permettre d'y contribuer, pour alerter. Moi-même, en refusant de poursuivre mon activité gouvernementale, j'ai eu l'occasion de le dire, et je le répète, et je le répéterai plus fort encore, que mon geste est un geste d'interpellation. Je ne peux pas dire que le président Hollande soit insensible à la question maritime. Nous en parlons souvent, nous avons co-rédigé le défi maritime. Les enjeux, ils sont connus. Mais il faut, dans cet article, je dis maritimiser les esprits. Oui. C'est-à-dire qu'il faut irriguer les esprits de toute cette haute administration. Vous devrez avoir une formation obligatoire des énarques aux questions maritimes. Eh bien, vous verriez que la haute administration serait certainement beaucoup plus sensible aux enjeux stratégiques de la France et ne pourrait pas méconnaître cela.
Donc, maritimiser les esprits, voilà une priorité. La mer aussi, peut-être, nouvelle frontière de ce 21e siècle pour la France géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Frédéric Cuvillier, Didier Billon et Bastien Alex, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la mer et les océans, nous retrouvons nos invités, Frédéric Cuvillier, député du Pas-de-Calais, maire de Boulogne-sur-Mer, ancien ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche, Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et co-directeur avec Bastien Alex du dernier numéro de la revue internationale Les Stratégies consacrée aux mers et aux océans. Qu'est-ce que l'on peut dire, de façon à regrouper un peu les idées et aborder les aspects peut-être plus géopolitiques de cette émission en lien avec la mer et les océans? La mer, quels enjeux planétaires? En quoi la mer, finalement, est-elle aujourd'hui au cœur des enjeux planétaires? Didier Billon.
Il y a une lutte incontestable pour l'appropriation de l'espace maritime. C'est même une lutte qui fait rage, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques tout à fait majeurs. De ce point de vue, les enjeux sont bien sûr multiples, mais pensons notamment au droit international. Il est tout à fait symptomatique qu'en réalité, il y a une tentative de la dite communauté internationale de légiférer le droit maritime seulement en 1982.
Donc très tardivement.
Très tardivement, c'est hier quasiment, avec la fameuse convention de Montego Bay. Au passage d'ailleurs, convention qui n'a toujours pas été ratifiée à ce jour, par les États-Unis.
Bon, mais sur ces fameuses zones économiques.
Voilà, c'est la délimitation. Alors, la mer territoriale, pour aller très vite, avait à 12 000, les zones économiques exclusives à 200 000, la question du plateau continental à 350 000. Ne rentrons pas dans les détails techniques ou juridiques. Ce qui est important, c'est qu'il y a donc une sorte de classification des espaces maritimes. Mais qu'évidemment, car nous sommes dans un espace qui n'a pas de frontières au sens physique du terme, parce qu'évidemment il y a des luttes d'influence, chaque État va essayer d'aménager un petit peu ces données générales qui relèvent de la Convention de Montego Bay, ce qui pose de très nombreuses questions. Par exemple, l'exploitation des ressources halieutiques, par exemple la pêche, par exemple les ressources offshore pétrolières ou gazières, etc. Donc nous voyons bien qu'au vu de l'immense potentiel, des immenses ressources dont recèle la mer qui ont été évoquées précédemment, mais que nous connaissons en réalité très mal, car M. Cuvillier le rappelait, il est quand même pour le moins paradoxal que nous connaissions moins la richesse de nos espaces maritimes que notre environnement spatial immédiat, et notamment la Lune. Mais pour une raison très simple, c'est que les programmes spatiaux qui ont été faits étaient l'expression de choix politiques. On en revient toujours là. Donc évidemment, il y a des enjeux tout à fait important. Et d'ailleurs, nous avons dans quelques mois, en 2015, une échéance au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour tenter d'améliorer, d'épousseter la Convention de Montego Bay pour essayer de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance internationale des mers. Alors, ça pose toute une série de questions, mais pour aller vite, je crois que fondamentalement, il y a deux conceptions qui s'affrontent. C'est celle de la liberté du pavillon, comme on dit, c'est-à-dire une sorte de liberté sans contrôle, sans règles, de celui qui s'impose sur les mers grâce à sa flotte, grâce à ses navires. Et puis, il y a plutôt les États côtiers qui, eux, ont intérêt justement à faire respecter cette délimitation en eau territoriale, en zone économique exclusive, etc. Voilà des enjeux géopolitiques exceptionnels. Et je pense que cette question de la gouvernance assumée, dirigé, contrôlé, maîtrisé par la communauté internationale, par l'ONU, est une nécessité impérative. Parce que si l'on considère que la mer est un facteur de développement humain maîtrisé, alors il faut le légiférer. On ne peut pas laisser libre cours à la loi du plus fort, à la libre concurrence sans bornes, sans régulation. Voilà des enjeux à la fois géopolitiques et bien sûr géoéconomiques qui sont essentiels et dont je pense qu'au cours des années à venir, ils vont se préciser et se mettre en œuvre tendanciellement, en tout cas, même si ce n'est pas assez rapide.
Ce que vient de dire Didier Billon, Frédéric Cuvillier, est important. Il y a d'une part la domination des mers, d'autre part la gestion des côtes. Alors cette convention de Montego Bay, Didier Billon a redonné des dates, c'est assez récent. C'est vrai que ça a ouvert un nouvel espace tout de même. C'est-à-dire que avant cette convention, la mer était interdite d'une certaine manière. En tout cas, il n'y avait pas ces zones attribuées à chacun des pays. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Sur lequel tout le monde travaille au jour d'aujourd'hui, ce qui fait aussi qu'il y a des zones de contentieux entre les pays, beaucoup de tensions, j'en ai parlé en introduction, en Asie. Tout ça est tout de même nouveau, donc c'est aussi ce qui explique peut-être également que la France ne se soit pas ouverte plus en amont sur ces questions-là. C'est pas pour l'excuser, mais c'est simplement pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre.
Lorsque nous sommes face à un ordre international, un ordre mondial, la référence, elle n'est pas nécessairement nationale. Et nous ne sommes pas dans un lieu de non-droit où chacun pourrait s'arroger. Nous sommes dans le cadre des Nations Unies, de l'ONU, nous sommes dans le cadre de l'OMI, où l'un des domaines, la mer, qui fait l'objet des négociations âpres, mais qui aussi amène, et c'est très intéressant, à ce que un certain nombre de groupements d'États, de groupements politiques parlent d'une même voix. À l'OMI, ce n'est pas la France qui parle, c'est l'Europe qui parle. Et la France, dans l'Europe, doit être celle qui permet de faire prendre pleinement conscience à la fois des enjeux, des positionnements, etc. Vous avez également des enjeux d'alliance, de petits États. Je pense notamment aux petits États insulaires qui se regroupent pour pouvoir compter et porter leur souveraineté, leurs exigences, leurs attentes au niveau de l'OMI et sur la scène internationale. Donc les perspectives, elles sont là. Elles sont aussi d'un domaine qui ne peut être réglé que par le droit international. Parce que la mer est internationale. Qu'il s'agisse de pavillonnement, qu'il s'agisse des règles environnementales, qu'il s'agisse des règles de souveraineté, de territorialité, l'enjeu est totalement international. Et finalement, ça ouvre quand même des perspectives énormes. Bien sûr que tout cela ne va pas suffisamment vite, bien sûr que tout cela est extrêmement compliqué, mais il faut mettre cela en perspective de l'échelle des valeurs. Nous sommes dans la constitution d'un ordre mondial juridique respectueux, qui doit l'être en tout cas, et où un certain nombre de valeurs doivent être portées par des pays. C'est à la fois complexe, mais passionnant, parce que nous sommes là sur l'équilibre de la planète et les enjeux internationaux en plein cœur de l'avenir de la planète.
Bastien Alex.
Je crois qu'un des grands enjeux à venir sur un petit peu l'encadrement juridictionnel de la mer, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. On parle beaucoup des ADE, c'est vrai qu'on a tendance à focaliser l'attention dessus. C'est toute la question de la haute mer et du contrôle de ces espaces, puisque les eaux internationales, effectivement, on imagine très bien que c'est assez complexe de quadriller un territoire aussi vaste. Il y a à la fois un enjeu sécuritaire, puisqu'il y a des navires qui sont agressés, il y a des phénomènes de piraterie aussi à ce niveau-là. Il y a un enjeu donc environnemental, bien évidemment, pour tout ce qui est pollution. Et il y a aussi un enjeu gestion de la ressource, puisque là aussi, très difficile d'aller contrôler un petit peu les navires qui vont un petit peu piller les stocks halieutiques, sachant qu'on est quand même dans une problématique de gestion, de régulation de ces stocks à long terme, si on veut éviter certaines catastrophes ou tout simplement qu'au bout d'un moment, certains pays abandonnent l'activité de la pêche puisqu'il n'y aura plus de ressources de toute façon.
Alors j'aimerais, avant d'aborder la question des marines occidentales et celle des puissances émergentes, vous évoquiez tout à l'heure la situation dans laquelle la France se trouve, des difficultés économiques. J'ai cette question, Frédéric Cuvillier, Didier Billon, est-ce que la France a les moyens d'une politique maritime?
La question
Frédéric
se pose,
Cuvillier.
Excusez-moi, peut-être pas totalement de cette façon. Est-ce que la France doit prendre ses moyens? Oui, c'est impératif. C'est un enjeu qui est majeur. Les débats économiques sont là au quotidien. Nous parlons de nos 2000 milliards de déficit, en quête d'une croissance qui tarde à revenir. Mais accompagnons l'innovation. Et parfois avec peu de moyens budgétaires. Réunissons les start-up du maritime. Voyons combien il y a de l'innovation, de la créativité. Mettons en réseau des personnes qui, dans des domaines tout à fait différents, on peut parler bien sûr de la ressource halieutique, de potentiel des algues, du plancton, j'y ai fait référence, des énergies marines, évidemment, du navire du futur. Bref, tout est à inventer. Nous pouvons prendre chacun des thèmes, chacune des activités économiques innovantes. Nous sommes face à des défis technologiques majeurs. Et la France n'est pas mal placée. La France, au contraire, doit avoir confiance en elle, organisée, planifiée. Je suis un nostalgique de la planification française. Nous n'avons plus les instruments permettant de concrétiser ce que, finalement, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault appelait l'État stratège. L'État stratège, je dis récemment, ça n'est pas une déclaration de sortie du Conseil des ministres. L'État stratège, ce sont des moyens de planification, d'impulsion, et la France a besoin de retrouver parmi les grands chantiers de la France de demain toute sa place, et le maritime doit être un enjeu majeur porté par la France. En quelque sorte, la France doit être à la fois la vigie de la mer, mais aussi celle qui impulse un nouveau mode d'utilisation, de valorisation, d'exploitation, respectueux, et qui donne des valeurs nouvelles.
Donc les moyens, il faut se les donner, oui, Didier Billon.
Pour rebondir, radicalement d'accord, c'est bien sûr là un débat foncièrement, totalement politique. Laissons-nous, sur le domaine de la mer et sur tout autre, libre cours au marché, sans régulation, ou revenons-nous à un État planificateur. D'autant plus que sur la mer, celui qui, il y a quelques siècles, certes, nous a donné l'exemple, c'est Colbert. Et le colbertisme, pour moi, devrait avoir toute son actualité. Nous avons évoqué, dans la première partie de l'émission, le potentiel formidable que la France pouvait avoir. Et pourtant, ce qu'on appelle l'économie de la mer, c'est-à-dire toutes les activités économiques liées à la mer, c'est seulement 2,5% de notre produit intérieur brut. Au vu de la situation de notre économie, on voit que la marge de progression peut être très rapide et peut d'ailleurs réactiver toute une partie de nos activités économiques en général. Donc là, nous avons un potentiel énorme. Et alors, deuxième point d'accord avec M. Cuvillier, la France se devrait et se grandirait sur ce dossier maritime parce que nous avons quand même aussi quand même une histoire liée à la mer, même si elle n'est pas suffisante comme on l'a évoqué, mais elle se grandirait en affirmant sa singularité. Nous avons une voix qui doit porter au niveau international. Nous devrions donc être porteurs de propositions précises, concrètes. Je pense à une chose, nous venons d'évoquer la question de la piraterie maritime. Ça va devenir un phénomène politique, un défi politique d'ampleur, pour une raison simple, c'est qu'il y a de plus en plus de commerce sur les mers. Donc il y aura de plus en plus de pirates. Alors la lutte contre la piraterie, bah, par définition, elle est compliquée, parce que cet espace est immense. Ça, c'est une donnée physique, objective, que tout le monde peut visualiser. Mais quand on pense qu'il y a une régulation qui commence à se mettre en œuvre grâce à la Convention de Montego Bay, est-ce que nous pouvons poursuivre des pirates dans les eaux territoriales d'un État ? Donc ça nous pose la question de la souveraineté. Donc ça nous repose la question du rapport des États-nations, qui ont une façade maritime, avec les questions de processus de dérégulation économique liée à la mondialisation. Vous voyez que quand on tire le fil de maritime, on se pose, on devrait en tout cas se poser, les questions politiques essentielles et fondamentales. Et de ce point de vue, je le pense et je le souhaite ardemment, notre pays a une voix singulière, particulière à faire porter au niveau de la dite communauté internationale, au niveau de l'ONU ou de toute autre instance qui tente de légiférer, d'organiser, de réguler cet espace maritime.
Je pense que
Frédéric Villiers.
Pour rebondir sur cette question de la piraterie, j'ai fait adopter la loi contre la piraterie, et notamment des gardes armés sur les bâtiments et sur nos navires. C'est un enjeu de compétitivité majeur. Mmh. Or, les obstacles ont été innombrables. Le secteur de la sécurité maritime, de la lutte contre la piraterie, se trouve être aux confins d'enjeux qui sont à la fois économiques, de présence sur les mers, et de droit international, et de souveraineté des États. Et c'est vrai que l'on comprend mal que la France ait pu attendre si longtemps pour se doter d'une politique et de dispositifs permettant d'assurer la sécurité de nos ressortissants, d'ailleurs, sur les navires, alors même que nous aurions dû être l'un des pays les premiers signataires et se dotant de la législation adaptée. C'est désormais chose réglée, mais il y a encore au niveau international un travail considérable à réaliser.
Quelques mots sur le climat. Bastien Alex, je me tourne vers vous. Et la question de l'Arctique pour la France, quel défi ?
En ce qui concerne l'Arctique, la France est observatrice au Conseil de l'Arctique, mais voilà, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que depuis la déclaration d'Ilulissat en 2008, les États riverains de l'Arctique se sont mis d'accord quand même pour essayer de maximiser leur mainmise sur la gestion, en tout cas, des ressources. Donc la France a peut-être un rôle à y jouer dans le futur, mais en tout cas, je pense qu'aussi il faut tempérer quelque peu l'excitation qui a été la note depuis 5 ou 6 ans sur l'Arctique et ses fameuses ressources. En 2008, il y a eu une étude effectuée par le US Geological Survey qui évoquait le fait que 30% des réserves mondiales de gaz et 13% des réserves mondiales de pétrole se trouvaient en Arctique. Donc évidemment, ce genre de chiffres aiguise un petit peu les appétits. Je passe aussi rapidement sur la question des routes maritimes, passage du Nord-Est et du Nord-Ouest, qui là aussi pose des questions de droit international en termes de droit d'emprunt de ces routes. Mais en tout cas, pour vraiment revenir sur les ressources, je crois que l'emballement qui était un petit peu général, après l'apparition de cette étude, est un petit peu retombé. Les grands groupes pétroliers, notamment Shell et Exxon, qui font des bénéfices assez importants, avaient prévu d'investir énormément d'argent dans la conquête des ressources arctiques. Ils en sont revenus, notamment Shell, qui s'est un petit peu cassé les dents, passez-moi l'expression, début de l'année dernière, avec plusieurs appareils techniques. Donc, enfin, tout ça pour dire que l'Arctique, même si ça continue de susciter la convoitise en termes de ressources, on en est encore loin de cette espèce de carrefour énergétique qu'on veut bien nous vendre, ou de carrefour commercial. Il n'y a qu'à voir le nombre de navires qui empruntent chaque année le passage du Nord-Est en comparaison du nombre de navires qui empruntent le canal de Suez quotidiennement. Ça n'a strictement rien à voir. Mmh. Voilà, je pense qu'il faut rester, en tout cas tempéré, si vous me permettez le jeu de mots, sur l'Arctique.
Alors, sur la domination des mers, hein, qui domine la mer, domine la terre, je ne sais plus qui l'a dit, mais finalement, est-ce une réalité ? En tout cas, les marines occidentales sont souvent perçues comme en déclin. Est-ce que c'est la réalité face aux puissances émergentes que sont l'Inde, la Chine, le Brésil, la Russie, Lydie Billon ?
Non. Bien sûr, il y a un déclin relatif, mais là encore, on ne peut pas dissocier les enjeux de puissance militaire maritime de l'ensemble des autres facteurs de puissance. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'émergence d'un certain nombre d'États. Nous pensons bien sûr à la Chine, parce que le tonnage de la flotte chinoise s'est multiplié par 10 en quelques années, sauf que on ne peut pas seulement raisonner en termes de tonnage. Il y a une question aussi de haute technologie. Et de ce point de vue-là, les États traditionnels, les grandes puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, même si leurs marines relativement sont en déclin, je dis bien relativement, sont encore d'un niveau de technologie assumé, et notamment pour les États-Unis, qui laisse penser qu'ils continueront à dominer les mers pendant encore quelques décennies, je crois. Donc, bien évidemment, émergence d'un certain nombre d'États, y compris au niveau maritime, y compris au niveau des flottes de guerre, mais en même temps, un très important retard à rattraper. Donc ça ne se fera pas en quelques années. Par contre, il est clair que des États comme la France et comme la Grande-Bretagne, qui sont, du point de vue de la puissance navale militaire, de grande puissance aux yeux de l'histoire, sont actuellement dans une situation très difficile. C'est-à-dire que le nombre d'heures de nos bateaux à la mer est de plus en plus réduit à cause des questions de maintenance, parce que c'est du matériel qui vieillit. Là aussi, nécessité du sursaut. On le voit bien, c'est pas un luxe que d'avoir une marine nationale efficace, opérationnelle, sur toutes les mers du globe. On a bien vu lors de l'opération en Libye, qui était essentiellement par la voie aérienne, mais où le support de la marine a été très important, et où nos bateaux étaient un petit peu, non pas à bout de course, mais nécessitaient de rentrer dans les ports pour l'entretien, pour la maintenance. Donc là, nous avons aussi des choix politiques à faire, et si on veut continuer à tenir notre rang, eh bien incontestablement, un des vecteurs de le tenir, c'est de consacrer un petit peu plus d'énergie et de crédit à la marine nationale.
Frédéric Cuvillier, je vous laisse la conclusion de cette émission rapidement.
La conclusion serait celle d'inviter la France à bien avoir conscience de son rôle universel. La France, c'est la France des Lumières. C'est celle qui a inspiré les pays en quête de liberté, d'égalité. C'est celle qui a ouvert un nouveau mode de civilisation. La France des Lumières a permis la construction d'un monde nouveau. Eh bien, la France des Lumières d'aujourd'hui, c'est celle qui doit porter le message maritime. Parce que, par les valeurs qui seront celles portées par la France, la conception qui sera la sienne, le message d'un développement qui doit être un développement respectueux de la planète, équilibré, de solidarité entre les pays, les nations, de partage des richesses. Voilà où la France, grâce à son rôle, grâce à sa situation sur tous les océans, doit renouer avec ce message universel. La mer lui permet d'avoir un message universel qui a fait d'elle à la fois l'avocate, mais aussi porteuse de grandes valeurs. Et elle ne doit pas ignorer son rôle, il est international, et sa grandeur, elle ne doit pas être qu'économique, elle est aussi en termes d'inspiration sur la scène internationale.
Merci Frédéric Cuvillier, merci pour cette émission consacrée à la mer et aux océans. Frédéric Cuvillier, vous êtes député du Pas-de-Calais et maire de Boulogne-sur-Mer et ancien ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci aussi à Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et co-directeur avec Bastien Alex du dernier numéro de la revue internationale et stratégique intitulée Mer et océans. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou si votre connexion est difficile sur m.rfi.fr, qui est la version simplifiée de notre site mobile, également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée aux questions migratoires. À samedi prochain.